Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc le message d'aujourd'hui porte le titre de Retour dans la course. Et c'est le 12e message d'une série sur l'autorité du croyant. Et c'est une sorte de conclusion, mais il y aura encore tellement de choses à dire. Donc tout d'abord, je voudrais vraiment vous placer dans ce contexte qu'on a entendu beaucoup de choses. Je vais faire un court résumé, mais il s'agit d'un certain nombre d'enseignements qui sont très importants pour nous. Mais je voudrais vous dire que vous ne pouvez pas lire la Bible sans y découvrir en même temps la grâce et la miséricorde de Dieu. Cependant, certains chrétiens y prétendent qu'à la moindre erreur, Dieu en a terminé avec vous. Vous risquez toujours d'être disqualifié. Ah, si je fais ça, alors que va-t-il se passer? Mais nous découvrons dans la Bible que malgré nos erreurs, on peut toujours se relever. Dieu veut agir dans votre vie et au travers de vous. Vous devez le croire parce qu'on commet tous des erreurs à un moment ou à un autre. Mais je veux vraiment vous encourager, et spécialement dans ce domaine aussi de l'autorité du croyant. Si Satan réussit à vous faire douter, dites oh non, tu as perdu la faveur de Dieu, tu n'as plus l'autorité, il va vous conduire peut-être dans un long chemin d'égarement, où vous allez baisser les bras. Mais je dis non, il faut vraiment se relever. Quand on est tombé, il faut se relever. Donc, c'est des messages très importants. Je voudrais rapidement faire le petit survol de ce que nous avons vu dans l'autorité du croyant. L'autorité du croyant, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons quelque chose à accomplir. Nous avons un rôle vraiment particulier dans toute la création. On n'est pas juste un animal évolué, on est plus que ça. On est créé à l'image de Dieu, on a des choses à faire sur cette terre. Et donc, premier message qu'on a mis dans ce début de série, c'était... Chrétiens, exercez votre autorité spirituelle. Comprenez que vous avez à ouvrir votre bouche, à prendre position, à ne pas simplement laisser faire les choses. Deuxième message, c'était une explication claire de la souveraineté de Dieu. Il y a une grande confusion à ce sujet où on dit, oui, mais Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Mais des fois, c'est confus parce que on se dit, alors il est directement responsable de certaines choses et les gens ne comprennent pas. Donc, je ne peux pas revenir sur tout ça. Je voulais simplement le survoler rapidement. Le message suivant, c'était que l'autorité s'exerce aux portes. On avait fait une étude sur les portes, sur l'autorité qui s'exerce aux portes, et en particulier, pour nous aussi, au niveau de notre corps, Dieu nous a donné un corps, et là, on a des portes et des fenêtres. On peut voir par nos yeux, on peut entendre par nos oreilles, on peut parler par notre bouche, donc il y a toute une série de choses que nous pouvons faire. Nous avions vu aussi les clés du royaume quand Jésus a dit cette parole aux disciples. Je vous ai donné les clés du royaume. Donc il leur a révélé certaines choses importantes que nous avons besoin de savoir. Nous avions vu un point qui disait ne pas subir les circonstances. Combien de gens sont fatalistes? Nous savons qu'il y a des religions, des groupes de personnes tout entiers qui sont fatalistes. Ils disent voilà, c'est comme ça. Quelle que soit leur divinité, ils pensent que voilà, on peut rien changer. Mais la Bible ne dit pas ça. Elle dit au contraire, nous pouvons choisir, faire des choix. Ensuite, on avait vu un message sur le pouvoir de nos paroles. Cette révélation de voir que nous pouvons agir dans ce monde, nous pouvons créer notre environnement, nous pouvons changer des choses en disant la parole de Dieu. Nous avions vu aussi que il y a une puissance dans le nom de Jésus. L'autorité que nous avons, elle ne vient pas de nous-mêmes, mais elle nous a été déléguée. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ce nom, nous pouvons l'utiliser. Nous avions vu aussi qu'il y a une puissance dans le non, dans le sens de dire non. Nous avons cette capacité de ne pas tout accepter. On peut refuser. D'ailleurs, la Bible nous dit que simplement le fait de résister au diable, de résister à la tentation, le fait fuir. Donc, nous avons une capacité de résister. Ensuite, nous avons un message sur le combat spirituel ou le bon combat de la foi. Des fois, on mélange un peu les deux et donc je ne peux pas rentrer dans les détails de tout cela. Et nous avions vu la dernière fois comment nous pouvons régner avec Christ. Il nous a dit, nous régnons avec Christ dès maintenant. Il y a des choses pour le futur, des enseignements concernant la venue de Jésus, d'abord l'enlèvement de l'Église, ensuite l'avènement du Seigneur, le règne du millénium, mais dès à présent, il y a des choses où nous pouvons régner avec Christ et exercer notre autorité. Et donc, le dernier que nous prenons aujourd'hui, c'est ce message que je vais vous adresser sur la restauration, d'être de retour dans la course quand nous en avons besoin. Et il ne s'agit pas forcément de quelqu'un qui a commis une énorme erreur ou un grand péché ou je ne sais. Non, je ne veux pas le minimiser du tout. Il se peut que ce soit à différents niveaux. Mais des fois, il suffit une petite chose qui vous coince ou qui vous bloque. Juste une pensée. Nous disons des fois, une seule parole de Dieu peut changer ta vie pour toujours. Mais une seule pensée de l'ennemi peut te paralyser pendant des semaines ou des mois. Et tu es là et ça ne progresse pas parce qu'on a des choses qui ne sont pas claires dans notre tête. Alors nous avons la pensée de Dieu qui peut nous être communiquée. Nous pouvons renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la parole vivante de Dieu. D'accord? C'est pas juste lire la Bible, c'est entendre de lui. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est pas juste la parole de Dieu. Pour nous, la parole de Dieu, elle est vivante. Mais la parole de Christ, ça nous dit plus que ça. C'est-à-dire, ça vient de l'onction. Ça vient de la communication du Saint-Esprit. Oui, il vous a communiqué des choses du Saint-Esprit récemment. Vous devez être attentif parce qu'il parle, mais il ne parle pas en vous criant dessus. Vous ne pouvez pas vous attendre tous à faire des expériences où il se manifeste comme il l'a fait pour l'apôtre Paul quand il était encore Saul de Tarse. Ce n'est pas à vous de déterminer de quel moyen Dieu va se servir pour vous parler. C'est à vous d'être attentif pour entendre sa voix. Donc, premièrement, rappelons-nous que sa divine puissance nous a donné tout. C'est écrit où, ça? Presque. De Pierre. Mais c'est pas mal. Oui. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aide, mais c'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Donc, il y en a 1, 2, 3. Hein. Il faut l'avoir dans l'ordre. Sa divine puissance nous a donné tout. Déjà, ça parle à toutes les personnes qui sont constamment en recherche de plus de Dieu. Hein. J'ai un problème dans ma vie, alors j'appelle Dieu. C'est bien de prier, c'est bien de demander du secours, mais vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir quelque chose de lui s'il vous dit que vous l'avez déjà reçu. D'accord? Il faut donc déjà utiliser ce que vous avez. Et là, il nous a dit, sa divine puissance nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, ça veut dire, je traduis toujours ces mots parce qu'ils sont des fois un peu anciens, on ne sait pas trop quoi y mettre. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui est attaché à Dieu, qui marche selon Dieu. Donc, pour marcher selon Dieu, pour avoir la vie de Dieu en nous, on a tout reçu par sa divine puissance. De quelle façon? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Il ne nous est pas dit au moyen d'une accumulation de connaissances. Il n'est pas question ici de bagages théologiques. Il n'est pas question de diplômes d'école biblique ou de choses universitaires. Il est question de connaître celui qui nous a appelés. Est-ce que vous le connaissez? Il nous a appelés comment? Par sa propre gloire et par sa vertu. Alors celle-ci, sa gloire et sa vertu, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses. Ça me fait penser à Hébreux quand il dit « Attendez-vous, j'attends pour vous des choses meilleures pour vous. » Afin que par elle vous deveniez participants à la nature divine. Nous savons que nous avons hérité de la nature de notre Père. Nous avons été adoptés, on a été transformés, on a maintenant la nature de Dieu. Nous avons une nouvelle nature parce que nous sommes de nouvelles créations. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Beaucoup de gens qui font des efforts dans beaucoup de domaines, mais voilà un endroit où nous pouvons faire des efforts. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Donc voilà des objectifs, des choses que nous pouvons poursuivre. Pourquoi c'est tellement important? Nous allons le voir tout à l'heure. Parce que si nous ne recherchons pas des choses spirituelles, quelque chose va s'installer en nous qui sera l'ennui spirituel. Tu vois à quoi ça sert? Et on va poursuivre d'autres choses parce que quelque part il n'y a jamais de vide. On cherche toujours à remplir. Donc si on ne reçoit pas de satisfaction ici, on va chercher ailleurs. C'est pourquoi pour nous des fois c'est incompréhensible que des gens qui soient admirés par des millions, qui soient des stars, puissent détruire leur vie dans la drogue ou dans toutes sortes de choses. Mais parce qu'ils poursuivent toujours des objectifs de remplir des vides. Donc ils cherchent, mais ils cherchent dans la mauvaise direction, alors ils se détruisent. Donc pour nous, c'est simple, nous sommes aussi des êtres humains comme tout le monde, je dirais, avec des besoins. Et les besoins ici sont remplis dans la mesure où nous poursuivons ces choses spirituelles. Et ces choses spirituelles, quand elles sont dans notre vie, en particulier, elles y sont, parce que nous allons rester un peu dans notre domaine d'étude, elles y sont par la manifestation de l'autorité du croyant. Alors on peut vraiment se réjouir, je le dis avec précaution, on peut se réjouir de cette puissance de Dieu qui se manifeste au travers de nous, mais nous allons tout de suite voir Luc 10, versets 17 et suivants. On l'a déjà utilisé à plusieurs reprises, mais relisons encore cela. Dans un premier temps, Jésus avait les 12 disciples, ensuite il a étendu le pouvoir de faire cette œuvre, cette mission d'évangélisation à 70 disciples. Et ils sont revenus avec joie en disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc voilà une réalité. Nous avons reçu une autorité dans le nom de Jésus. Vous le réalisez ça? Parce que tous les jours, vous pouvez être confronté à une situation où spirituellement, vous aurez besoin d'exercer votre autorité. Et Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ça, c'est-à-dire ne focalisez pas sur ça. Ne regardez pas seulement cet aspect de « je suis comme quelqu'un, j'ai l'autorité dans le nom de Jésus ». Il dit, ne regardez pas ça. Mais il dit, voici, je vous l'ai donné. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Si le diable vous fait douter, est-ce que tu crois vraiment que tu as l'autorité du croyant? Est-ce que tu crois vraiment que tu as du pouvoir sur la puissance des ténèbres? À ce moment-là, il faut que votre foi soit solide. Si votre foi n'est basée, ou plutôt votre croyance, n'est basée que sur vos sentiments, est-ce que je me sens avoir l'autorité aujourd'hui? Est-ce que je sens que je peux faire ou non? Ou est-ce que je en mémoire encore cette conscience du péché, peut-être d'une erreur que j'ai faite, qui m'affaiblit, qui m'amoindrit? À ce moment-là, je ne peux pas agir. Vous le comprenez ça? C'est important. Mais si votre foi elle est basée sur ce que Jésus vous a donné, alors elle pourra être efficace. Elle pourra agir dans le sens de ce que nous avons dit. J'ai eu une question sur Internet. Quelqu'un me posait la question. Existe-t-il des exorcistes évangéliques? Je ne sais pas si des personnes cherchaient à savoir s'il y a un annuaire, si on a besoin d'un exorciste, on peut appeler une personne comme ça. J'ai dit oui. Chaque chrétien, en fait, est un exorciste évangélique, si on veut dire comme ça. J'ai dit, il suffit de regarder Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Première chose, en mon nom, ils chasseront des démons. Nous avons autant d'exorcistes que de chrétiens, théoriquement. Mais dans la pratique, encore faut-il que ces gens aient cette foi en Dieu de « oui, je peux y aller ». On ne nous demande pas d'aller n'importe où, faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a d'autres enseignements qui sont donnés. pour expliquer aux gens une différence entre la foi, entre la présomption et entre la folie. D'accord ? Mais il y a une réalité. De la même façon que cette guerre spirituelle qui existe, que certains veuillent croire au diable ou non, que certains veuillent croire en Dieu ou non, pour nous c'est une réalité que nous voyons dans le monde actuel de manière permanente. Et il y avait ce fameux épisode de ces exorcistes juifs ambulants dans Actes des Apôtres, que nous pouvons reprendre au verset 13, chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants, ils étaient ambulants, ils allaient d'un endroit à l'autre, et ils essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Il y avait plusieurs aspects intéressants dans cela. Premièrement, ils essayaient tout de même d'aider les gens, a priori, et il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes dans ce sens, mais ils étaient certainement impressionnés par les résultats que donnait l'exercice du ministère chrétien, en particulier par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, puisqu'ils ont essayé cette méthode. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sceva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et tout à l'heure, j'ai dit que c'est important qu'on ne marche pas par nos sentiments. Mais on ne peut pas non plus agir par la présomption de dire, « Voilà, je suis chrétien, j'ai l'autorité dans le nom de Jésus, donc j'y vais. » Ici, il nous est quand même dit que l'esprit malin, il connaît Jésus, il sait qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Notre identité en Christ, elle est en relation avec celui qui nous a donné l'autorité. Si nous n'avons pas cette relation, nous n'avons pas l'autorité et pas le pouvoir. Donc il est important de pouvoir se déterminer. Et donc n'importe qui ne peut pas, comme ça, agir n'importe comment. Ce n'est pas possible. L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Le Seigneur Jésus, son nom est glorifié quand il est utilisé à juste dessein. Nous voyons que cette puissance se manifestait dans les apôtres, dans Actes 3, au verset 6 et 7, quand Pierre a dit à celui qui était paralysé, « Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et un peu plus loin, quand on lui pose la question, « Comment ça s'est fait ?» Alors Pierre dit au verset 12, « Ce n'est pas par notre propre puissance ou piété que nous avons fait marcher cet homme. » Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on associe la puissance de Dieu à une certaine piété, à une certaine consécration, mais notre foi doit être orientée sur la parole de Dieu et sur ce que lui nous a donné et fait. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'autorité du croyant n'est pas une récompense parce que vous avez été un brave chrétien, maintenant vous avez le droit d'accéder à l'autorité du croyant. L'autorité du croyant est quelque chose dont on se saisit, qu'on prend tous les jours et on apprend à marcher avec. Et si on trébuche, alors justement c'est là que je voudrais vous encourager à dire on peut être restauré. Sa divine puissance nous a donné tout. Dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui étaient oints, qui avaient de l'autorité. Je pense maintenant au premier roi d'Israël, Saül. Il a été choisi par Dieu. Bon, c'était sous la pression du peuple qui voulait un roi. Mais il a été choisi, il a été loin de l'Éternel. Loin, dans le sens, il a l'onction, hein, parce que il n'est pas loin dans le sens éloignement. Il était loin de l'Éternel, et d'ailleurs, David avait une attitude remarquable par rapport à lui. Il l'a toujours considéré comme étant celui qui avait l'onction. Il n'a jamais voulu attenter à sa vie, même lorsque Saül a été déchu. On ne va pas prendre le temps d'étudier toute la vie de Saül en détail, mais simplement, bien qu'ayant l'onction, il y avait toujours des imperfections dans sa vie. Il y avait toujours des choses qui n'allaient pas, des choses où il n'a pas obéi totalement, où il a juste fait à peu près. Et à un moment donné, on peut dire, en accumulant désobéissance et encore, il a été déchu. Il a été déchu de sa position et Dieu a dit, maintenant j'en choisis un autre. Un autre qui est un homme selon le cœur de Dieu. Et ce qui est tragique pour Saül, c'est qu'il a été déchu au point qu'il a été tourmenté par un mauvais esprit. Lui qui avait l'autorité, qui avait l'onction, se retrouve maintenant dominé par un mauvais esprit. Vous voyez, c'est vraiment, on peut dire, le monde à l'envers. Il devait être quelque part un représentant de Dieu sur terre. Il était le chef du peuple d'Israël, le peuple élu. Et il avait l'autorité et l'onction, tout comme un prophète l'aurait eu, ou un sacrificateur. Et là, finalement, il se retrouve déchu, et David est spectateur de ces choses. Et non seulement spectateur, mais comme il est l'homme qui monte devant Dieu, lorsque lui, il faisait la louange, il nous a dit « l'esprit mauvais se retirait de Saül ». Et il avait du soulagement. Donc on voit clairement déjà l'autorité qui se manifeste au travers de ce jeune homme qui était David. Et donc, moi je ne dis pas que maintenant c'est un type de chrétien qui a commis un péché et qui perd le Saint-Esprit et qui est possédé par un démon. Ce n'est pas ça. C'est simplement l'histoire des faits tels qu'ils ont été. Et Saül n'est pas un type de chrétien. Il n'est pas né de nouveau. Mais on peut se poser la question... Un chrétien peut-il avoir un démon? Et j'aime bien rajouter cette phrase qu'un prédicateur a dit, un démon peut-il avoir un chrétien? Parce que c'est ça la réalité. Un démon peut-il avoir un chrétien? Ben oui, les chrétiens se font souvent avoir par les démons, et la façon dont ils se font avoir, c'est Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Vous vous faites avoir chaque fois que vous ouvrez portes et fenêtres. Si vous fermez seulement d'un côté, il va entrer par l'autre côté. Donc, vérifiez vos accès. On a parlé tout à l'heure, j'ai fait le petit résumé, je ne vais pas refaire tout le message, mais des portes où s'exerce l'autorité. Les portes sont nos yeux, nos oreilles, notre bouche. Ne donnez pas accès. Parce que ce qui est dans notre cœur, c'est quelque chose qui est venu par l'extérieur, forcément. À un moment ou d'autre, ça nous a été communiqué. Donc, sa divine puissance nous avait donné tout, on a reçu l'autorité, mais il y a des situations dans lesquelles on peut de nouveau être déchu de l'autorité, on peut être affaibli dans cette autorité. Alors, mon deuxième point, c'est que dans certaines circonstances, quand on a fait un mauvais choix, pris une mauvaise décision, on peut rebondir, et c'est pas peu de le dire. Et pour ça, je vais prendre comme illustration le fils prodigue. Le fils prodigue, dans Luc 15, n'est pas avant tout une histoire donnée pour de l'évangélisation, mais c'est une histoire donnée pour l'Église, le peuple de Dieu. Au verset 11, Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc ça c'est l'image d'une déchéance, d'être un fils héritier, visiblement il y avait beaucoup de biens, et il y avait une belle position d'être un des héritiers, de partir pour dilapider la fortune qu'il avait, et de voir que dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de l'abondance, on s'éloigne de la vie, il n'y a pas vraiment des choses meilleures en dehors du royaume de Dieu. Il peut y avoir une illusion passagère, mais ça n'est pas une bonne chose. Mais il a eu une bonne attitude. Il nous a dit qu'il a fait un mauvais choix, il a pris une mauvaise décision, mais à un moment donné, il a eu une bonne attitude. Il est rentré en lui-même, verset 17. Rentré lui-même, même le bon sens des fois peut nous enseigner. On n'a pas besoin forcément d'avoir toujours une révélation extraordinaire. Juste le bon sens. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Rappelez-vous, il s'est mis au service d'un habitant du pays, littéralement serviteur, esclave. Lui qui était avant héritier, maintenant il devient esclave. Et il se dit même les ouvriers ils ont une meilleure condition chez mon père que moi. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Remarquez bien qu'il a cette notion, j'ai péché contre le ciel. Et ça, c'est important à noter, on le verra après aussi. Parce que souvent, on a un peu cette notion, c'est pas grave, c'est qu'une petite chose, etc. Mais on verra pourquoi. Mais notez juste, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Rappelez-vous qu'il revenait d'avoir été chez les cochons. Et son père n'a pas dit d'abord, écoute, hein, d'abord, va te nettoyer. Il n'a même pas su son père quelles étaient les choses qui se sont passées à l'intérieur de son cœur. Il n'a pas mis des conditions. Et c'est là que, dans cette histoire, on a l'image du Père, qui est l'amour inconditionnel, qui accueille sans d'abord poser des conditions. Mais est-ce que tu t'es bien repenti? Est-ce que tu as fait le ménage? Est-ce que tu as fait le nettoyage? Est-ce que tu sens bon? Est-ce que tu as été chez les cochons et tout ça? Non, il l'accepte tel qu'il est. C'est une image de notre Père céleste. Et quand on parle de notre Père céleste, la même chose vaut pour Jésus. Il dit, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Et pourquoi chacun d'entre nous, nous avons besoin des fois de revenir à lui. N'est-ce pas vrai? Des fois même plusieurs fois par jour. Oui, par jour. Alors le Père fait beaucoup plus. Le Fils, il lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, il lui répond même pas. Il n'y a pas un dialogue. Il lui répond d'une façon qui frappe l'esprit, qui frappe les regards, qui impressionne tout le monde. Il n'y avait plus de doute après ce qui a été fait. Apportez vite la plus belle robe. Revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et les retrouvés, ils commencèrent à se réjouir. Ils ont commencé à se réjouir, après ils se sont réjouis encore plus. Mais ce revêtement est important. Ce revêtement marque maintenant une position. Et ça, c'est la position de chacun d'entre nous. Quand à un moment on a pris une mauvaise décision, la mauvaise décision nous éloigne de Dieu. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça nous éloigne de Dieu. Mais regardez l'image du Père, chaque fois prêt à accueillir et nous restaurer dans la position. Il lui met l'anneau. L'anneau représente le pouvoir. On pense à, nous on l'utilise moins maintenant, mais dans les siècles passés, l'anneau par lequel ils imprimaient leur cachet, leur sceau, l'anneau qu'on reconnaissait parce que c'était l'anneau familial avec qui marquait la royauté ou la position. Et ici, il y a un anneau qui représente sa position en tant que fils. Vous voyez, il y a des péchés évidents et des péchés cachés. Il y a une invention humaine qui n'a absolument rien de biblique, qui parle des 7 péchés capitaux. D'accord? C'est des traditions humaines. Mais la Bible, elle parle autrement. La Bible parle du fait que même de pouvoir faire le bien et de ne pas le faire, c'est aussi un péché. C'est aussi une façon de rater quelque chose de ce que Dieu voulait pour nous. Ne rien faire est aussi des fois un péché. Le péché nous éloigne de Dieu. C'est quelque chose qui apporte la mort. Et la mort n'est pas toujours tombée raide, mort, terminée. C'est quelque chose qui empêche la vie de Dieu de couler abondamment au travers de nous. Mais remarquez bien, quand j'ai parlé de péché évident, quand il est revenu dans son état, ayant perdu toute sa fortune et sentant mauvais et tout ça, tout le monde le voyait, il n'y avait pas besoin de décrire qu'est-ce que tu es devenu, alors comment s'est passé ton séjour à l'étranger. Tout le monde voyait dans quel état il était. Par contre, il y avait un autre fils dans la maison aussi, le fils aîné. Et des fois, dans l'attitude extérieure, il y a des gens qui semblent de bons chrétiens. Mais ce fils n'était pas meilleur que l'autre. Il n'avait pas une bonne relation avec son père. Lorsqu'il a entendu tout ce qui s'est passé, il a appelé un serviteur. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Alors on lui explique, ton frère est de retour, ton père fait une fête parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Donc vous voyez son attitude. Son père sortit, le pria d'entrer. Son père va aussi vers lui. Il a la même position par rapport à ses deux fils. Il a une position, il va vers lui. Mais il répondit à son père, il refuse cette invitation. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as touillé le veau gras. Mon enfant, lui dit le père. Le père ne se fâche pas, il essaye encore de conserver une bonne relation avec lui. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici est mort, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, qu'il est retrouvé. On espère qu'il a pu finalement le convaincre qu'il réalise ce qui s'est passé. Mais sinon, on peut réfléchir à ce genre de mentalité du fils aîné. Des reproches, de l'amertume, du mépris, de la jalousie. Toutes ces attitudes qui font d'une manière générale l'attitude des gens religieux qui sont un scandale pour des gens qui ne s'approchent pas de Dieu à cause de ce genre d'attitude. On pourrait encore étudier l'histoire de la femme adultère, vous pouvez le lire chez vous dans Jean 8, et il dit voilà, cette femme, on l'a trouvée, et donc la loi nous dit il faut la lapider, et toi qu'est-ce que tu dis? Et là, nous devons nous rappeler encore des paroles de Jésus, il dit moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc la restauration, elle est toujours possible. On pourrait penser aussi à l'illustration classique de l'autorité du croyant par rapport à un policier. Je ne parle maintenant pas du policier qui a fait une faute grave et qui est renvoyé, mais admettons quelqu'un qui a fait une erreur et qui fait partie de la police, il est suspendu de ses fonctions pendant un temps, mais après, quand il est réintégré, dès qu'il revêt l'uniforme, il a de nouveau toute l'autorité. Je ne dirais pas ça c'est un demi-policier, il a seulement l'autorité à moitié, parce qu'il a dans son passé quelque chose qui n'a pas été comme il faut. Vous voyez? Et ça doit être la même chose pour nous. Une fois que vous êtes restauré, vous êtes pleinement restauré dans vos fonctions. Alors, laissez-vous toujours amener par Jésus à être de retour dans la course. D'accord? Si vous trébuchez, mais finissez votre course. Continuez et finissez votre course. Ça, c'est mon troisième point. Vraiment, vous encouragez à être de retour dans la course. Es-tu un bon chrétien? Comment tu te jugerais toi-même? Si on te disait maintenant, fais une évaluation honnête. Est-ce que tu... Maintenant, si on devait dresser une liste, quel est le meilleur chrétien de l'Église ici? Et on fait un classement, comme on fait dans le monde. Où est-ce que tu te mettrais? Tout en haut, tout en bas, au milieu? Parce qu'en réalité, des fois, ce n'est pas ce que nous voudrions. Mais on est constamment en train de se juger soi-même, de s'évaluer, d'avoir soit une bonne opinion, soit une mauvaise, soit on se surévalue, alors on est orgueilleux, ou alors on a une mauvaise image de soi. Mais tout le temps, nous sommes pris par ces pensées. Alors, je dis, est-ce que tu es un bon chrétien? Est-ce que si maintenant on devrait réécrire Hébreux 11, la liste des héros de la foi, est-ce que tu ferais partie de cette liste? Levez la main ceux qui pensent qu'ils feraient partie de cette liste. Normalement, je m'attendais à ce que vous ne leviez pas la main, mais normalement, nous devrions tous lever la main. Parce que, on va regarder un peu qui est sur cette liste. Peut-être ça va vous aider et ça, vous aurez une meilleure opinion de vous-même. Hébreux 11, verset 31. Je commence déjà au verset 31. héros de la foi. On commence par « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Une prostituée fait partie des héros de la foi qui ne faisait même pas partie du peuple d'Israël. Mais c'est une personne qui a eu comme descendant Jésus-Christ. Elle fait partie de la lignée qui ont donné naissance au sauveur du monde, roi des rois et des seigneurs des seigneurs. Ensuite, on continue la liste. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Gédéon, si vous regardez dans la Bible, on va regarder tous ces personnages, il avait une mauvaise image de lui-même. Il disait, je suis le plus petit, mais non, Dieu, tu ne peux pas sauver qui que ce soit par moi, c'est pas possible. Il a agi de nuit parce qu'il avait peur. Il doutait que Dieu voulait l'utiliser. Il a dit, bon, on va faire le test de la toison pour voir si c'est vraiment toi. Alors quand il y a eu le miracle, il a dit, bon, ben, on va faire le miracle, mais dans l'autre sens. Bon. Donc voilà un héros de la foi. Ensuite, il nous est dit Barak. Barak était un des juges en Israël. Il a dit, bon, je ne vais pas à la guerre si Déborah ne vient pas avec moi. Il avait besoin du soutien de Déborah, qu'une femme se tienne avec lui dans l'armée pour avoir assez de courage pour faire ce que Dieu lui disait de faire. Ensuite, nous avons comme héros Samson. Samson qui était dominé par ses pulsions. Il a fini par se laisser séduire. Et il a perdu tout. Il a perdu sa vie, il était enchaîné, on lui a crevé les yeux, et voilà comment il a fini. Héros de la foi. Jephté, il a fait une déclaration insensée qui a coûté la vie de sa fille unique. Ensuite, nous avons David, héros de la foi. Il a pris la femme d'un de ses soldats, il a fait tuer celui-ci. Ensuite, nous avons Samuel le prophète. La Bible nous dit qu'il n'a pas su élever ses enfants dans les voies de Dieu. Ils ne l'ont pas suivi. Voilà quelques-uns des héros de la foi. C'est pourquoi nous devons être encouragés quand la Bible nous dit que nous pouvons être de retour dans la course. Chacun d'entre nous, quoi que nous ayons fait. Tous nous commettons des erreurs. Mais ce qui est important, c'est quelle est notre réaction. Lorsque nous commettons un péché, une erreur, que nous avons chuté à cause d'une faiblesse. L'apôtre Paul nous a donné ce passage admirable dans 2 Corinthiens 12, c'est 7 à 10. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il avait appris que, finalement, vous ne devez pas essayer de vous transformer tout le temps. Vous serez toujours vous. Vous ne deviendrez jamais quelqu'un d'autre. Il y a des choses que Dieu va développer en vous. Mais il y a des choses où vous serez fort pendant toute votre vie. Et il y a des choses où vous serez faible pendant toute votre vie. Ça ne va jamais changer. Et le diable va toujours vous attaquer sur vos points faibles, bien sûr. Il va toujours venir, c'est pour ça qu'il arrive à nous rouler des fois, mais il vient toujours sur les points faibles. Mais l'apôtre Paul avait dit, « Ok, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que je compte à ce moment-là sur la force de Dieu qui se manifeste dans ce domaine particulier où moi je n'arrive pas, mais où lui peut m'aider. » Il avait développé le raisonnement suivant, 2 Corinthiens 12, 7. « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange Satan pour me souffleter, ça veut dire frapper, et m'empêcher de m'enorgueillir. » Il n'a pas dit « Dieu a envoyé un démon pour travailler à ma sanctification. » Il est dit « Moi j'ai eu d'excellentes révélations. Je suis celui qui a peut-être eu le plus de révélations de l'ensemble des personnes qui ont été dans la Bible. Mais il y a des domaines qui me rappellent que je suis faible. » Il y a des domaines dans lesquels je suis toujours encore éprouvé. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. J'ai prié Dieu qu'il me délivre et m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ça veut dire « Ce n'est pas moi qui vais te délivrer, Paul. Mais tu vas laisser agir la puissance de Dieu que j'ai déposée en toi pour te sortir de cette situation. » C'est ça que ça veut dire. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Ça ne veut pas dire que je suis content d'être faible, mais au moment où je suis faible, à ce moment-là, je compte sur la puissance de Dieu pour continuer la course. C'est pourquoi je me plais. Il prend un langage, on peut dire, excessif. Il dit pas, oh, je suis content d'être faible. Mais il dit, cette faiblesse, finalement, je n'y prête pas attention comme quelque chose de négatif. Mais au contraire, je le regarde comme quelque chose qui permet à la puissance de Dieu de se manifester. Alors, s'il y a des faiblesses, des outrages, des calamités, des persécutions, des détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il nous a montré l'exemple. Vous voyez, c'est encore aujourd'hui, et combien de fois je l'ai utilisé déjà. On dit, nous, on a nos problèmes et tout, et on se dit, oh là là, comment on va s'en sortir. Et Paul dit que dans ses légères afflictions, quand on considère sa vie, tout ça, c'est rien du tout, il dit. Il dit, c'est rien du tout à comparer à la gloire à venir. Et ça, c'est une source d'encouragement. Donc, apprenons de ceux qui nous ont précédés. Si j'apprends à compter sur la force du Seigneur, ma faiblesse devient une force. Elle est peut-être toujours là, mais il y a ce mais. Parcourons encore quelques personnages de la Bible. Moïse. Est-ce qu'il a fait des erreurs dans sa vie, Moïse ? Oui, il a fait. Déjà, la première erreur, c'est qu'il a cru que Dieu allait libérer le peuple par sa force. Il s'est jeté sur l'Égyptien, il l'a tué, il s'est dit, ça y est, ils vont tous comprendre, c'est moi leur sauveur, leur libérateur, et tout le monde va me suivre, ça sera formidable. Et tout de suite après, il a compris son erreur. On l'a menacé, on a fait pression sur lui, chantage, et il s'est enfui, et il a subi le recyclage dans le désert pendant 40 ans, pour qu'il puisse apprendre maintenant. Samson, on a vu, il a fait preuve de légèreté, il a oublié que sa force résultait de sa consécration. D'où lui venait sa force? Ses parents avaient eu des instructions que jamais il devait se couper les cheveux et que ça serait un... La force n'était pas dans la longueur de ses cheveux, mais la force était dans la consécration, dans l'obéissance à ses instructions de Dieu. Et donc, parce qu'il n'a pas été attentif, il a perdu cette consécration. Mais il a été restauré d'une certaine façon et il a pu faire par une dernière œuvre de libération, il a pu retrouver l'onction et la force que Dieu lui avait donnée. Bon, c'est sûr que c'est pas très enviable, il en est mort, mais la Bible nous rappelle qu'il a encore été un libérateur. Pour David, Dieu le bénissait partout. Il nous a dit partout où il allait, il avait du succès. Il avait développé cette vie de louange. Il avait c'était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu le bénissait partout où il allait. Tout allait bien pour lui. Même qu'il y avait des moments difficiles, mais ça allait de mieux en mieux. Et il s'est laissé aller. Il s'est relâché. Il nous a dit qu'il n'est pas parti à la guerre. C'est un comble pour un homme de guerre de ne pas partir à la guerre. Laisser aller l'armée toute seule et de rester à la maison. Et pour nous aussi, ça doit nous parler de chacun d'entre nous. Ne baissons pas les bras, on ne se relâche pas spirituellement, mais on laisse notre foi agir constamment. Parce qu'il n'est pas parti à la guerre, parce qu'il s'est relâché, il s'est ennuyé. Et donc, la faiblesse que David avait a été la source de sa chute. On voyait déjà que il était clair dans la parole de Dieu qu'un roi ne devait pas avoir plusieurs femmes. Mais il avait, ce que Salomon a fait à l'extrême, lui, il avait déjà fait. Il avait eu une multitude de femmes, parce que chaque fois, c'était une question d'alliance avec certaines personnes. Et donc, cette faiblesse s'est manifestée aussi. Il a vu Bathsheba, il y a eu l'adultère, il y a eu suivi d'un meurtre, et ça a causé sa chute. Mais, il nous a donné le psaume 51. Et dans le psaume 51, nous avons quelque chose d'important à réaliser. Il ne s'agit pas de prendre nos faiblesses ou nos erreurs à la légère. Mais nous l'avons vu tout à l'heure déjà dans l'histoire du fils prodigue. David avait aussi cette attitude... J'ai péché contre soi seul, je cherche justement 5. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » On voit une nette différence. Quand Saül avait fait une erreur ou un péché, il avait dit au prophète Samuel, « Honore-moi devant les anciens d'Israël. » Il voulait rattraper la chose. Mais David, il a reconnu la chose. C'est ça la différence. Il a dit, « J'ai péché devant toi seul. D'abord devant Dieu, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. » S'il y a eu restauration pour David, c'était à cause de ça, de cette attitude de cœur. Verset 12, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il avait bien vu ce qui était arrivé à Saül, lorsque l'Esprit de Dieu se retirait de lui et qu'un mauvais esprit le dominait. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et un peu plus loin, il nous est dit que Dieu ne prend pas plaisir à certaines choses, mais qu'est-ce qu'il aime ? Un esprit brisé, c'est-à-dire que la dureté dans notre cœur soit brisée et qu'on soit capable de s'humilier devant lui. Et malgré le fait qu'il a été restauré, qu'il a été pardonné de Dieu, il y a eu des conséquences. Donc on ne doit pas prendre les choses à la légère. Le fils qu'il a eu de cette relation adultère avec Bathsheba est mort. Il y a eu des conséquences pour son royaume, il y a eu la révolte d'Absalom, il y a eu beaucoup d'autres choses. Donc il y a eu des restaurations, mais on ne doit pas le prendre à la légère. Ce n'est pas un message pour nous dire « t'en fais pas, Dieu va toujours te permettre de t'en sortir ». Ce n'est pas à prendre à la légère, mais c'est un message d'encouragement. Autre deux, trois personnages encore dans la parole de Dieu. Pierre était orgueilleux. « Même si tous t'abandonnent, moi jamais je ne t'abandonnerai. » Et Jésus lui dit « Cette nuit même, avant que le coq ne chante, deux fois tu me renieras trois fois. » Mais à nouveau chez lui, il y a eu repentance. Il nous est dit qu'il a pleuré amèrement. Il n'a pas dit « C'est pas grave, tout le monde l'a fait, tout le monde a abandonné Jésus. » Parce que des fois, il y a des personnes qui veulent se complaire comme ça dans la moyenne. « Je suis pas pire qu'un autre. » Ce n'est pas ce genre d'attitude qui nous permet de nous en sortir. Et nous avons vu que malgré ce qu'il a fait, il y a eu une merveilleuse œuvre de restauration. Jean 21, Jésus vient lui parler cœur à cœur avec le Seigneur. Il lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors, je te confie cette mission, de continuer le travail. Paie mes brebis, occupe-toi de mon troupeau, occupe-toi des autres. Et ce qui ne veut pas dire que parce qu'il y a restauration, il est maintenant dans la perfection non plus. Je trouve qu'on est des fois trop extrême. On passe d'un extrême à l'autre. Soit on est complètement déprimé, ou alors on est euphorique, on croit que maintenant on est les meilleurs champions du monde et rien ne va nous arriver. Pierre était quand même capable, comme tout être humain, d'avoir encore des faiblesses. Dans Galates 2, il a droit à un reproche de l'apôtre Paul, en disant « tu es hypocrite ». Et il lui a dit « devant tout le monde ». Il a dit « écoute, j'ai quelque chose à te dire, Pierre, en secret, là. Je trouve que ton attitude n'était pas très bonne ». Non, il ne l'a pas dit comme ça. Il a dit « quoi ? Regarde ton comportement. Tu es hypocrite. D'abord, tu mangeais avec tout le monde. Maintenant que les Juifs sont arrivés, tu ne manges plus avec tout le monde. Ton attitude n'est pas juste ». Nous avons un autre disciple, il nous est dit, Jean, surnommé Marc, celui qui a écrit l'évangile de Marc, il nous est dit qu'il faisait partie de l'équipe apostolique qui voyageait, et à un moment, il ne les a pas accompagnés, il les a laissés tomber. Alors ça, vous ne trouvez pas que ce n'est pas une bonne attitude de laisser tomber une équipe apostolique, surtout que c'était difficile, on avait besoin de tout le soutien possible. Et donc, il a été aussi le sujet de disputes qui a amené Paul et Barnabas à se séparer. Donc, tout ça n'est pas très positif. Mais dans l'épître à Timothée, Paul écrit à Timothée, « Emmène avec toi Jean, surnommé Marc, parce qu'il m'est utile pour le ministère. » Donc, entre-temps, il y a aussi une restauration. Sinon, on pourrait rester, « Ah oui, Jean, surnommé Marc, c'est celui qui a abandonné Paul, c'est tout ce qu'on retient de lui. » Non. Dieu ne veut pas qu'on retienne seulement ça de chacun de nous. C'est pourquoi ces gens font partie de la liste des héros. Parce que nous avons toute leur histoire. Mais dans la parole de Dieu, on se rappellera des choses qu'ils ont faites pour la gloire de Dieu. Et dans l'éternité, on ne rappellera pas à David sans cesse son péché et à Pierre le fait qu'il ait renié le Seigneur et des choses comme ça. Ces choses seront oubliées. Vous le croyez ça? Et l'apôtre Paul aussi, il avait, parce que c'était pas une petite chose qu'il avait fait, comme il avait vraiment persécuté l'Église et pas qu'un peu, c'était quelque chose, ce passé le hantait, il le poursuivait. Et il était obligé de faire des efforts conscients pour lutter contre cela. Le secret de Paul, c'était dans Philippiens 3, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me tourne vers le but, je cours dans la course. » Donc je voudrais terminer avec ça pour vous dire qu'il y a cette restauration et il y aura toujours pour vous, tous les jours, des choses à oublier. Et même pas seulement des mauvaises choses à oublier, même des bonnes des fois. Parce que on peut aussi, comme on dit, se reposer sur ses lauriers. On se rappelle des bonnes choses et on reste dans un certain stade. Mais ce n'est pas ce que Dieu voudrait pour nous. Donc là, j'ai une version en anglais, c'est « I focus ». Ça veut dire que je mets vraiment mon objectif sur cette chose. Est-ce que vous êtes déterminé à oublier votre passé? Vous avez besoin d'y travailler toujours. Oubliez le passé. Pensez à des choses présentes. Pensez à des choses futures, des projets que vous avez. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire et disent « Mais comment est-ce que je peux oublier ce qui m'est arrivé ?» Mais donc, une chose importante, c'est de ne pas tout le temps entretenir les choses du passé. On a tellement de choses où nous pouvons fixer nos regards. Mon verset de conclusion, c'est dans Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et au lieu de focaliser sur des erreurs du passé, sur nos faiblesses, sur des choses que nous aurions faites ou voulu faire et pas pu faire, la Bible nous propose de regarder, ayant les regards sur Jésus. Il suscite la foi. Quand on le voit, notre foi est développée, motivée, stimulée. Il l'amène à la perfection, il fait développer notre foi. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, oui, bon, ça c'était pour Jésus. Oui, mais c'est pris comme un exemple pour chacun d'entre nous. Considérez, en effet, ayez de la considération. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc plus on y pense, plus on pense à lui et ce qu'il a fait, on ne peut pas être soi-même découragé. Des fois, je ne veux pas minimiser les choses par lesquelles vous passez, mais en comparaison de ce que Jésus a fait, c'est toujours un encouragement pour nous de savoir qu'il a été jusqu'au bout. Il ne s'est pas laissé décourager. Il aurait aussi pu avoir l'âme découragée. Il aurait pu se lasser, mais il ne l'a pas fait. Il a été jusqu'au bout. Donc, considérez cela. Et donc, courez dans la course. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là-dessus. Mais je vous encourage vivant à continuer toujours votre étude sur votre position, l'autorité du croyant. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde de temps en temps. C'est quelque chose avec lequel vous vivez tous les jours. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.